Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, la campagne électorale s'achève ce soir en Ukraine par un débat inédit organisé dans le plus grand stade du pays. Dimanche, ce sera le second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Petro Poroshenko, affronte l'acteur Volodymyr Zelensky, un novice en politique bien parti pour remporter la bataille. Les derniers sondages lui accordent une large avance. L'Ukraine, toujours en guerre, dans l'Est. Le conflit a déjà causé la mort de 13 000 personnes. Selon l'ONU, en mars dernier, 12 soldats ukrainiens ont perdu la vie dans les affrontements avec les forces séparatistes pro-russes et russes. La guerre est donc une partie intégrante de la campagne pour la présidentielle. Le président Poroshenko s'est d'ailleurs positionné comme un commandant en chef. Mais ça a été l'une des surprises du premier tour. Seule la moitié des soldats mobilisés sur le front ont voté pour lui. L'autre moitié pour Volodymyr Zelensky. Quelques centaines de voix d'écart seulement entre les deux hommes. Alors, à l'approche du second tour, le 21 avril, les voix de l'armée sont devenues plus importantes que jamais. C'est un reportage de notre correspondant Sébastien Gobert.
Реальні справи, а не брехливі обіцянки.
La gifle pour le président sortant. Petro Poroshenko avait pourtant articulé sa campagne sur le slogan conservateur de la foi, la langue et l'armée. Il n'y a pas que des soldats qui ont voté dans la zone de conflit. Des villageois, des policiers, la garde nationale l'ont fait aussi. Mais c'est bien le ressentiment des militaires qui est le plus perceptible. Yevgen est un ancien commandant du bataillon Kievska-Rus.
À Kiev, ils disent que l'armée est la meilleure d'Europe. Ça me fait mal aux oreilles. Je connais l'état de l'armée et notre commandement n'a rien accompli de positif pour l'armée au cours des dernières années.
Yevgen a voté pour Volodymyr Zelensky. Il espère un changement de stratégie qui améliore le quotidien des soldats.
On a plus d'équipements et d'armes et de meilleure qualité, mais le moral a baissé. Il n'y a plus de volontaires. La motivation des soldats est différente. Tenir ses positions dans des conditions précaires, sans perspective de résolution du conflit, ça n'a pas de sens. Ce que les soldats voient, c'est la corruption au plus haut niveau, la désorganisation au quotidien et une action militaire de façade, au lieu d'une réelle stratégie.
Pour le sergent de réserve Martin Brest, c'est le moral des troupes qui pose problème.
Il n'y a plus de mobilisation. Les gars sur le front ne sont plus des volontaires comme en 2014. Ils ne choisissent pas leur affectation, leur mission. Et on leur dit, voilà, c'est le commandant en chef, Petro Poroshenko, qui a décidé de te donner cet uniforme, de te déployer sur cette position. Et pour beaucoup, ça ne leur plaît pas.
Pourtant, il y a eu des améliorations. En 2014, lors de l'annexion de la Crimée et le début des troubles dans l'Est, l'Ukraine n'avait que 6000 soldats en état de combattre. Pour le volontaire Dany Adansky, c'est le président Poroshenko qui a permis de faire évoluer la situation.
Les soldats de 2014, ils recevaient un salaire équivalent à 26 euros par mois. Ils allaient pieds nus, en claquettes, sans uniforme. L'armée a vraiment changé. Elle est aujourd'hui l'une des 10 meilleures armées d'Europe. Nous avons de très bons équipements, de très bonnes structures, tout va beaucoup mieux.
Mais au-delà des problèmes d'équipement, de morale des troupes, il y a eu aussi des scandales de pots de vin qui sont venus ternir le bilan du président Poroshenko. Il avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Petro Poroshenko a tardé à réagir alors que certains de ses très proches collaborateurs étaient impliqués dans un scandale touchant à l'approvisionnement de l'armée, en contradiction avec ses déclarations de 2017.
Je ne laisserai personne s'enrichir aux dépens de l'armée. Ceux qui volent l'armée, je leur couperai les mains.
Aujourd'hui, Petro Poroshenko se présente en commandant en chef face à Vladimir Poutine. Et il pointe l'inexpérience de son adversaire, Volodymyr Zelensky. Mais cela ne convainc pas l'ancien commandant Yevgen.
Il tente de mettre en avant le manque d'expérience de Zelensky. Mais en 2014, Poroshenko non plus n'avait pas d'expérience militaire. La fonction de commandant en chef, c'est une responsabilité civile. Il lui reviendra juste de trouver des gens compétents pour occuper les postes militaires.
Les détracteurs de Volodymyr Zelensky soulignent aussi son ambiguïté face à la Russie. En 2014, il avait proposé de s'agenouiller devant Vladimir Poutine si cela le dissuadait d'attaquer l'Ukraine. Un discours qui fait réagir Maxime Kamenetsky. Il est le représentant d'une association de vétérans de la guerre à l'Est.
Nous ne sommes pas indifférents au futur de notre pays. Nous avons tous été prêts à donner notre vie pour notre pays et nous ne permettrons pas que notre pays soit gouverné par un homme qui a promis de s'agenouiller devant notre ennemi.
Une série d'officiers, pour certains de haut rang, ont déjà déclaré qu'ils refuseront d'obéir aux ordres d'un président Zelensky.
En Irlande, l'addition qui ne cesse de grimper pour le National Children's Hospital. Près de 2 milliards d'euros. Le budget initial a explosé. Dublin avait, il y a quelques années, présenté la construction d'un nouvel hôpital pour enfants. Coût de départ estimé à 650 millions d'euros. Mais aujourd'hui, il est en passe de devenir l'hôpital le plus cher du monde. Le scandale a déjà coûté son poste au directeur de l'établissement, qui a démissionné en février, au directeur du projet, parti en mars. Dépenses hors de contrôle, accusations de conflit d'intérêts. Désormais, l'affaire est clairement politique. Les précisions de notre correspondant en Irlande à Dublin, Julien Lagache.
C'est une polémique qui pourrait coûter davantage au gouvernement irlandais que la simple facture à régler pour la construction du futur hôpital national pour enfants. Entre l'appel d'offres retenu en 2015 et le budget approuvé pour sa réalisation, le prix avait déjà augmenté de moitié, tandis que la date d'ouverture de l'établissement a été reculée de 2 ans. Et depuis l'automne dernier, l'addition ne cesse d'être revue à la hausse. Un fonctionnaire a même affirmé devant le Parlement qu'il ne pouvait garantir un coût final inférieur à 2 milliards d'euros, ce qui dépasserait largement la facture du Royal Adelaide Hospital en Australie, considéré comme le plus cher du monde. Stupeur et colère chez les députés irlandais qui demandent des comptes au gouvernement. Comment a-t-on pu en arriver là en si peu de temps? Pourquoi ne découvre-t-on l'ampleur des dégâts que maintenant? Et qui est responsable, s'interroge-t-on? Panique au gouvernement, le Premier ministre rejette la faute sur les calculs des experts, puis sur le manque de fiabilité du constructeur qui nie et parle d'inflation. Au milieu des échanges virulents, le ministre de la Santé est personnellement ciblé, certains élus demandent sa tête. Finalement, seul le chef du projet finira par démissionner. Mais le scandale passe mal dans l'opinion, car pour couvrir l'excédent de dépenses, on parle de revoir à la baisse, voire d'annuler les financements pour d'autres établissements de santé du pays, alors qu'au même moment commençait une grève inédite des infirmiers, infirmières et sages-femmes pour dénoncer la faiblesse de leur salaire qui pousse les nouveaux diplômés à chercher du travail à l'étranger. Pour l'opposition, il y avait de quoi faire tomber le gouvernement qui ne doit finalement son salut qu'au Brexit. Pas question en effet de renverser l'exécutif irlandais à un moment crucial du divorce entre Britanniques et Européens, dont l'issue aura des conséquences majeures pour Dublin.
Accent d'Europe, nous retrouvons nos confrères de Courrier International et c'est Sébastien Hervieux qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sébastien.
Bonjour Juliette.
À la une cette semaine de Courrier, l'incendie de Notre-Dame de Paris que votre journal a rebaptisé Notre-Dame du Monde. Dans un grand nombre de pays, Sébastien, la presse a largement commenté ce drame. Les éditorialistes ont été touchés par ce qui est arrivé à ce symbole de la culture française. Et Sébastien, un symbole même pour toute l'Europe.
Oui, Juliette, pour le quotidien espagnol ABC, cette tragédie est une immense tristesse pour tous les Européens. Je le cite, il existe peu de monuments dans le monde qui soient à ce point emblématiques de l'histoire de l'Europe. Rappelons-le, c'est celui qui est le plus visité du continent. Alors pour le journal madrilène, ce superbe monument de la chrétienté représente nos racines culturelles et spirituelles communes. Des centaines de poètes, de peintres ou de cinéastes l'ont glorifié. Et l'éditorialiste espère que ce drame sera l'occasion de souder tous les pays d'Europe qui sont bien souvent en désaccord en ce moment.
Sébastien, certains journaux européens sont toutefois critiques, comme en Italie où on accuse l'État français de négligence.
Oui, pour la Repubblica, la cathédrale a été laissée à l'abandon. En cause, la France laïque qui n'investit pas suffisamment. Le quotidien romain dénonce un effet pervers de la loi de 1905 qui a confisqué les biens de l'Église, selon lui. Il y a 1 an et demi, la correspondante du journal avait fait une visite en compagnie du porte-parole de la cathédrale. Des hauts reliefs tombés littéralement en morceaux, des fragments de têtes de gargouilles étaient par terre, raconte-t-elle. Une collecte de fonds avait même été lancée auprès de mécènes américains. Alors les défenseurs de la cathédrale accusaient à demi-mot l'État de s'enrichir sur le dos des touristes en leur faisant payer un billet pour monter dans les tours. Le recteur de Notre-Dame, lui, se refusait à faire payer l'entrée de l'église, comme le fait par exemple la cathédrale de Milan.
Aux États-Unis, on juge que cet incendie, c'est une nouvelle tuile pour Emmanuel Macron.
Oui, c'est le New York Times qui y voit un symbole des difficultés que traverse la France. L'incendie s'est produit le soir même où le président français devait annoncer ses mesures pour répondre aux gilets jaunes. Le pays est marqué par l'angoisse et l'agitation, estime le quotidien américain. Les Français voient leur modèle social partir en fumée, un peu comme la cathédrale qui pendant des siècles avait été un sanctuaire de l'identité française. Mais le New York Times est confiant. Comme Notre-Dame, la France va réussir, je cite, à se réinventer, car c'est un pays qui a déjà surmonté tant d'épreuves.
Un grand dossier donc à lire cette semaine dans Courrier International. Sébastien, il y a un autre dossier dans le journal cette semaine, plusieurs pages, ce que vous appelez la haine blanche. Vous revenez sur la multiplication des violences commises par les suprémacistes dans de nombreux pays.
Oui Juliette, c'est une véritable internationale nationaliste connectée et tentaculaire qui monte en puissance, raconte une longue enquête de The Economist. L'hebdomadaire britannique rappelle le massacre dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande il y a un mois. C'était apparemment un loup solitaire, estime-t-il, mais un loup solitaire qui fait quand même partie d'une meute. La menace des nationalistes blancs est bien réelle, même si elle est sous-estimée car elle communique peu selon le journal. Un exemple, ces dernières années, sur près de 260 actes de terrorisme, eh bien 92 ont été le fait d'assaillants d'extrême droite contre 38 perpétrés par des djihadistes. Leurs idées autrefois marginales sont devenues monnaie courante depuis le début des années 2000 avec la montée des populistes islamophobes. Mais pour The Economist, c'est surtout la vague migratoire en Europe en 2015-2016 qui a galvanisé les extrémistes blancs. Selon le journal, cette crise a été pour eux du pain béni.
Et il y a aussi une autre idéologie qui inquiète la presse, Sébastien, c'est l'écofascisme.
Oui, elle connaît un dangereux renouveau, selon The Guardian. C'est une idéologie qui mêle prédictions apocalyptiques et suprématie raciale. La plupart des écofascistes reconnaissent la gravité de la situation environnementale, explique le quotidien britannique. Ils déplorent le pillage de la nature, mais pour eux c'est la faute à la modernité qui, selon eux, a affaibli les liens entre les groupes raciaux et le territoire. Ils dénoncent surtout les problèmes de la surpopulation humaine. Pour eux, avec l'effondrement environnemental, il serait, je cite, « nécessaire de laisser mourir certaines catégories de population ».
La une de Courrier International avec Sébastien Hervieux. À bientôt, Sébastien.
À bientôt.
What do you think about Brexit?
What's that? Like,
we're leaving the European Union.
I seriously don't have a
clue. So, like, if you, so it's to, it was to leave the EU, so we wouldn't be part of
the
Europe.
EU,
which
yeah,
would
yeah,
mean, like,
definitely.
Welfare. Doesn't it mean it would be harder to, like, go to, like, Spain and stuff?
So it'd be harder to go on holidays?
Yeah, I think so.
Oh, I love my holidays.
Yeah. Vous avez remarqué qu'on ne vous a pas parlé du Brexit ces derniers jours? Eh bien, on y reviendra, bien sûr, sur la saga du divorce du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Mais pour l'instant, vacances depuis le sommet européen des 10 et 11 avril qui a entériné un énième report du Brexit. Les parlementaires britanniques se sont mis au vert jusqu'à la fin du week-end de Pâques. Le temps de reprendre son souffle avant de nouveaux débats sur les conditions de la sortie de l'Union européenne. En attendant, beaucoup de Britanniques, eux, ont peur de quitter le pays pendant les vacances. Une crainte qu'évoquent les participants d'émissions de télé-réalité, vous venez de les entendre, et qui se répercutent dans les agences de voyage qui baissent leurs prix. Les vacances en temps de Brexit, ou comment voir le verre à moitié plein, Marie Billon?
Cette discussion sur le Brexit des candidates de la série de télé-réalité Love Island l'an dernier a fait beaucoup rire, même si elle sonne vraie. Les Britanniques adorent les vacances, comme tout le monde en fait, mais ils ont peur que ça devienne plus compliqué avec le Brexit. Des queues interminables au guichet des passeports, dans les gares aéroports ou aux abords des ferries. Et ce n'est pas tout. Fin mars, le gouvernement a commencé une série de publicités pour bien rappeler qu'en cas de no deal, ils ne pourront pas sortir du territoire si leur passeport expire dans les 6 prochains mois. Le risque d'une sortie sans deal a été diminué et repoussé à fin octobre, mais le mal est fait selon le directeur de l'association des tours opérateurs indépendants. Les politiques disent juste « préparez-vous à toutes les éventualités, même les pires », mais ne précisent pas que les professionnels du voyage se sont préparés eux aussi. Ainsi, les compagnies aériennes et agences de voyage ont baissé les prix, moins 24% par rapport à l'an dernier, alors qu'ils auraient dû augmenter cette année. Plus Pâques est tard, plus la météo est clémente, plus les gens ont envie d'en profiter et plus les compagnies de voyage en profitent à leur tour, normalement. En moyenne, les prix ont baissé de 115 euros par tête, selon les médias britanniques, mais il reste encore beaucoup d'invendus. Si bien que les compagnies aériennes ont tendance à baisser leurs prix à l'approche de la date du départ, alors que, normalement, ça augmente à la dernière minute. La bonne nouvelle, c'est que les paquets complets, les vacances qu'on paie en avance, ont la cote, plus 7% de réservation par rapport à l'an dernier, selon l'Institut d'études GFK. Les Britanniques ne veulent rien avoir à dépenser sur place, par peur que la livre sterling ne fluctue beaucoup. La période estivale semble, elle, s'annoncer plus calme, le Brexit ne devant pas avoir lieu avant l'automne. Malgré tout, les Britanniques semblent échaudés, toujours selon GFK. Fin mars, le nombre de réservations estivales avait déjà baissé de 6% par rapport à l'an dernier.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
La chronique musique de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Et on écoute la chanteuse française Noémie Westfeld.
Et oui, elle poursuit son beau voyage européen avec la sortie ce printemps du dernier volet d'une trilogie qui se joue des frontières et des langues, à l'image du parcours de Noémie Westfeld, chanteuse et comédienne qui a grandi au son du jazz et des musiques classiques et traditionnelles, avant d'apprendre le chant, le violoncelle, mais aussi le yiddish et le russe. Un heureux mélange qui nourrit trois disques enregistrés avec son groupe Blick, formé voilà 10 ans. Kalima, d'abord en 2012, proposait une relecture de chants des rescapés du goulag, ceux rentrés de Sibérie pendant la période d'ouverture sous Khrouchtchev. En 2015, Alfama évoquait le chant des femmes lisboètes et réinterprétait le fado en yiddish. Aujourd'hui, Zimlia évoque le blues des déracinés russes aux États-Unis avec une collection de reprises éclectiques et émouvantes comme ce titre de Vladimir Vysotsky, « Mes mains ».
Ну вот сорвался в пропасть на век, на век. Для остановки нет причин. Иду сквозь и в мире нет таких вещей, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А мне тех, кто здесь лёг,
Westfeld et Blick avec Mes mains. C'était la chronique de Vincent Théval. À bientôt, Vincent. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez sur le site internet de RFI, rfi.fr, onglet podcast, l'émission Accent d'Europe. Et on se retrouve lundi, ici, à la même heure.